Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles en français, pour savoir ce qui s'est passé cette semaine au territoire du Nord-Ouest. Voici ce qui a retenu notre attention. L'arbitre indépendant Ronald Barclay recommande que le député de Toonaidé-Wildé, Steve Norn, soit expulsé de l'Assemblée législative. On regarde l'enquête entamée l'été dernier, qui inclut notamment 13 témoignages livrés dans le cadre d'une audience publique. L'expulsion de M. Norn de son siège de député serait le seul recours approprié. C'est ce qu'on lit dans le rapport d'enquête de 191 pages qui a été rendu public le 17 novembre. M. Norn a ainsi été reconnu coupable d'avoir brisé son protocole d'isolement au printemps 2021 et plus grave encore, selon l'arbitre, d'avoir induit le public en erreur en fournissant de fausses informations entourant son bris de protocole, notamment dans le cadre du processus de recherche des contacts qui permet de retrouver et de donner les directives appropriées aux personnes ayant potentiellement été exposées au virus. Cette enquête a été réclamée au printemps dernier par le président du caucus de l'Assemblée législative, Rylan Johnson, alors que des allégations de bris de protocole d'isolement pesaient contre M. Norn. Ce dernier était alors accusé, à titre de député, d'avoir enfreint le code de conduite de l'Assemblée législative. Le rapport déposé cette semaine dresse un portrait accablant des actions du député, dont la majeure partie des arguments ont été rejetés par l'arbitre indépendant Ronald Barclay. On peut lire dans le rapport que les actions de M. Norn, soit briser son protocole d'isolement et induire le public en erreur quant à son respect des règles, ont irrémédiablement endommagé la confiance du public. L'action d'induire délibérément le public en erreur, en particulier les responsables de la santé publique, rend M. Norn inapte à demeurer membre de l'Assemblée législative. À mes yeux, poursuit l'arbitre, considérant l'ensemble des faits reprochés, l'expulsion est le seul recours qui soit approprié. L'arbitre note également que M. Norn a attendu plusieurs mois après les faits reprochés pour présenter des excuses pour ses actions. Excuses qui ont d'ailleurs été présentées à l'avant-dernier jour de la comparution publique. Le moment choisi pour ces excuses est suspect, d'indiquer l'arbitre dans le rapport, et me mène à croire qu'elles ont été présentées dans le but d'obtenir ma sympathie en tant qu'arbitre unique. M. Barclay juge que ces excuses n'ont pas été faites de bonne foi. En regard des témoignages recueillis, l'arbitre a jugé que M. Norn a brisé son protocole d'isolement à plusieurs reprises, en se présentant notamment à l'Assemblée législative, au club Racquet Club et en rencontrant sa fille, et ce, alors qu'il devait respecter les règles d'auto-isolement. Or, le plus grave aux yeux de l'arbitre indépendant demeure les preuves à ses yeux que M. Norn a induit le public en erreur, en indiquant de différentes façons avoir respecté son protocole d'isolement. Pour des raisons très égoïstes, peut-on lire, M. Norn a induit les responsables de la santé publique en erreur en émettant des fausses déclarations. Son motif était de convaincre les autorités sanitaires qu'ils s'étaient conformés aux exigences d'auto-isolement obligatoire. Le député de Toonaidé-Wildé a répliqué au rapport d'enquête de l'arbitre indépendant Ronald Barclay avec l'aide de son avocat, Maître Stephen Cooper, dans le cadre d'une conférence de presse organisée le 18 novembre.
The only people in the world who have the power to place Mr. Norn and his colleagues, respectively, in as members of the assembly are his constituents. Under any democratic theory, only those same constituents should have the power to replace him.
Les seules personnes au monde qui ont le pouvoir de décider de faire entrer M. Norn à l'Assemblée, ce sont ses électeurs. Selon toute théorie démocratique, seuls ses électeurs ont le pouvoir de le remplacer, a déclaré Stephen Cooper.
Once this remedy recommended by this Southern expert is imposed, if that is the conclusion, be afraid, be very afraid.
Si ce remède recommandé par cet expert du Sud est imposé, si vraiment il s'agit de la conclusion, ayez peur, ayez très peur, a ajouté Maître Cooper.
Because the moment you give the power to each other to dismiss one another, you not only add to the undermining of an already rotting democracy in the Northwest Territories, but you give more power to the bureaucracy.
À partir du moment où vous vous donnez le pouvoir de vous expulser les uns les autres, vous contribuez non seulement à affaiblir une démocratie déjà pourrie dans les territoires du Nord-Ouest, vous donnez encore plus de pouvoir à la bureaucratie. Maître Cooper a notamment affirmé que les procédures d'audience publique entourant l'enquête ont été biaisées, que l'arbitre aurait pris des décisions qui témoignent d'un rejet systématique des preuves présentées par M. Norn. Il a sur divers plans remis en question la validité du processus dans son ensemble, affirmant que la cause était perdue à l'avance. Le média Cabin Radio, dont le directeur de l'information, Harley Williams, a comparu dans le cadre des audiences publiques, s'est vu refuser le droit d'intervenir dans le cadre de cette conférence de presse.
Let me say this on behalf of Mr. Norn, Cabin Radio. You're not welcome here.
Le média a réalisé un montage vidéo des audiences publiques qui, selon Maître Barclay, ridiculise les procédures.
You should be ashamed, and we look forward to the issuance of an apology. And from my client's perspective, on the basis of those concerns, you will not be granted the privilege of asking any questions.
Vous devriez avoir honte. Mon client s'attend à des excuses de votre part et vous n'aurez pas le privilège de poser des questions dans le cadre de cette conférence de presse, a conclu M. Cooper. Le député de Toonedee Willie Day a confirmé qu'il compte poursuivre son travail à l'Assemblée législative. Quant au rapport d'enquête, il a évoqué son statut autochtone.
And my first thoughts, the first feeling I felt was, you know, it was a huge step back from reconciliation that we often speak about in this very building.
En voyant le rapport, a déclaré Steve Norn, mes premières pensées et sentiments, c'est qu'il s'agit d'un énorme recul en matière de réconciliation, un thème dont nous parlons beaucoup à l'Assemblée législative.
I got to witness and experience a great deal of white privilege, hypocrisy and lack of respect for our processes in the North.
Je témoigne d'une expérience impliquant énormément de privilèges blancs, a-t-il ajouté, d'hypocrisie et de manque de respect pour nos processus du Nord. Ce dernier a qualifié l'ensemble du processus d'enquête de perte colossale de temps, de ressources et d'argent des contribuables. M. Norn dit croire qu'il a été ainsi puni pour avoir tenté de tenir le gouvernement et les employés de l'Assemblée législative responsables de leurs actions. Il fait ainsi référence aux allégations qu'il a portées en février 2021 à l'endroit du greffier de l'Assemblée législative, Tim Mercer. Selon ces allégations et celles d'autres employés, M. Mercer aurait instauré un climat de travail toxique à l'Assemblée. Une enquête a été menée. Le greffier a été blanchi. M. Norn a indiqué qu'il regrette certains gestes qu'il a posés et qu'il a d'ailleurs présenté des excuses sincères dans le cadre des audiences publiques.
Just listening from all the testimony that I, it was a very low risk, if anything, that I posed.
Questionné sur les faits qui lui ont été reprochés au printemps dernier, M. Norn a toutefois réitéré que ses actions représentaient un très faible risque puisqu'il s'est assuré de porter le masque, de garder ses distances et d'utiliser un désinfectant pour les mains. À la question « Croyez-vous que les fausses déclarations que vous avez émises à la santé publique dans le cadre de la recherche des contacts a représenté un risque pour la santé publique? » M. Norn s'est limité à répéter qu'il a fourni de fausses déclarations sous l'état d'une privation de sommeil majeure qui aurait affecté sa santé mentale. Cet argument présenté dans le cadre de sa comparution a été rejeté par l'arbitre Ronald Barclay.
And Thomas, I think that your question is probably better asked of the experts. Mm-hmm. Mr. Norn is not an expert in the transmission of the disease, and risk assessment is better left to the experts, the epidemiologists and virologists in our midst.
Sans non plus se prononcer sur les risques potentiels associés aux fausses déclarations émises par M. Norn à la santé publique, Maître Stephen Cooper est intervenu en proposant à Média Ténois de poser cette question aux experts de santé publique. Steve Norn sera de retour en chambre lundi prochain, 22 novembre, pour la reprise des travaux de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. Les cinq gouvernements autochtones autonomes des territoires du Nord-Ouest ont signé, ce lundi 15 novembre, l'accord de fondation du Forum des partenaires en matière de traités modernes et d'autonomie gouvernementale. Cette entente officialise la création de ce forum qui rassemblait cette semaine les dirigeants du territoire pour une troisième fois.
As Premier of the Northwest Territories, I'm committed to working with the members of this forum as equal partners.
Dans le cadre d'un bref point de presse organisé tout juste après la rencontre, la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, s'est engagée à travailler d'égal à égal aux côtés de ses homologues des gouvernements autonomes autochtones. Les représentants étaient ainsi rassemblés pour discuter des enjeux communs à leur collectivité, en lien avec la mise en œuvre des accords sur les terres, les ressources et l'autonomie gouvernementale. En bref, ces rencontres ont pour objectif de tâcher de trouver les occasions de travailler ensemble, comme l'a résumé la première ministre. Ken Kikavichik, grand chef du conseil tribal des Gwich'in, était présent au point de presse.
Some of the discussions that we've been having, more around background and context on our views on important potential legislation, such as the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, has been incredibly impactful from the perspective of the Gwich'in Tribal Council.
Nous avons réalisé que nous vivons beaucoup de choses en commun, spécialement dans le contexte de la pandémie, a indiqué le grand chef Kikavichik. Certaines des discussions concernant nos points de vue sur d'importantes lois potentielles, incluant les législations entourant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ont eu un énorme impact. Le chef de Bechokon, Clifford Daniels, était également présent.
I could only see this getting better. This is our third meeting. And as we develop and have a better understanding of our priorities in each region, and I think that's when we can start collaboratively work towards something that we have in common out of all the regions and work with the JNWT.
Les relations ne pourront que s'améliorer entre les différents gouvernements autochtones des TNO, d'indiquer le chef de Bechokon, Clifford Daniels. Au fil des discussions, nous parviendrons à mieux comprendre nos priorités communes et celles qui diffèrent d'une région à l'autre pour être en mesure de mieux collaborer et de s'attaquer à nos problèmes communs.
I think it's about time now that, you know, the self-governing indigenous groups with land claims and that really have that direct on the table discussions.
Il était à peu près temps que les gouvernements autochtones aient ce type de discussion directe en table ronde, d'ajouter le chef de Bechokon. Il y a encore des enjeux entre nous qui ne disparaîtront pas, des mésententes. Je crois qu'ensemble, nous pouvons résoudre plusieurs de ces enjeux et tranquillement nous attarder à ceux sur lesquels il n'est pas pour l'instant possible de nous entendre. Ce dernier a notamment évoqué les revendications entourant l'exploitation des terres. Concrètement, le forum devra permettre au cours des prochains mois et des prochaines années d'offrir de meilleurs programmes et un meilleur appui à la population des collectivités. Les parties prenantes travailleront notamment à faire valoir les intérêts des collectivités à Ottawa pour obtenir le financement nécessaire à l'avancement des programmes et à l'aide qui est apportée aux résidents des collectivités. Aux yeux de la première ministre, les traités et ententes de gouvernements autonomes ont grandement tardé à se concrétiser du côté du gouvernement des territoires du Nord-Ouest.
I've been hearing for many years since I've been in politics about the modern treaties and the self-government saying we've signed them and we've been talking about implementation for like 30 some years and sometimes I'm hearing and so this actually, but there was no forum to deal with that. It was more of them complaining and not having anywhere to bring it to.
J'entends depuis longtemps les gouvernements autochtones attendre la réalisation de ces accords, et ce depuis plus de 30 ans, a indiqué la première ministre. Il n'y avait aucun forum pour traiter ces revendications qui n'étaient entendues nulle part. Ce forum inclut tous les gouvernements autonomes avec traités modernes et offre une chance importante de travailler ensemble vers l'implémentation de ces traités modernes et gouvernements autonomes. C'est en 1984 qu'est apparu le premier traité moderne au territoire du Nord-Ouest par la signature de la Convention définitive des Inavialuit. L'entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in a été signée en 1992, suivie par l'entente sur la revendication territoriale globale des Dene et Métis du Satou en 1994. L'accord Clichon a été conclu en 2005 et l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale de Deline en 2016. Une pièce de taille s'est ajoutée cette semaine au projet de fête de la francophonie des territoires du Nord-Ouest proposé par l'Association franco-culturelle de Yellowknife. Quelques 24 résidents de la capitale ont voté à main levée le 16 novembre pour désigner le lieu où devra être organisé l'événement. C'est finalement sur le site du festival Folk on the Rocks que la communauté franco-ténoise souhaite créer la tradition. J'ai pu en discuter tout de suite après le vote avec le directeur général de la FCY, Maxime Joly.
Qu'est-ce que le vote d'aujourd'hui signifie là, pour la suite des choses?
Écoute, juste faire un petit retour sur tout ça. Nous autres, on avait déposé une demande de financement. C'était bien beau. Ça avait été reçu par Patrimoine canadien pour une demande de projet pilote, mais ils nous ont un peu reviré de bord en disant « ça serait bien que vous consultiez les gens », ce qui n'est pas faux. Fait qu'on s'est reviré de bord pour faire une étude préparatoire plutôt qu'un projet pilote. Puis, on a mis sur pied un comité aviseur. Ensuite, on a fait un sondage. On a fait un premier café citoyen en juillet. Puis là, on vient de terminer le deuxième café citoyen. Il reste encore des entrevues semi-dirigées. Beaucoup de travail à faire, mais en gros, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'était vraiment d'avoir un mandat clair de la part de la communauté par rapport au site et au concept. Parce que dans le sondage, on opposait deux concepts, nature versus urbain, mais on proposait pas de site concrètement. Ça fait que là, on est allé pousser la réflexion un peu plus loin. Dans le sondage, on demandait des recommandations de sites. On en a eu 88. Pas nécessairement tous des sites différents, mais les trois qui sont revenus le plus souvent, c'était Sombaké, et ensuite Folk on the Rock et le site de Camp Connection. Puis, bon, dépendamment du site qu'on va choisir, ça a un gros impact sur le type d'activité qu'on va pouvoir mettre en place, puis le concept, puis le genre de clientèle qu'on va viser. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce soir, on avait pleine légitimité pour prendre une décision par rapport au site, puis on a décidé de prendre Folk on the Rock. Et puis, le vote était quand même serré vers Camp Connection. Le Camp Connection, on proposait une fin de semaine de camping. C'était plus des activités immersives, un rythme plus lent, puis la création identitaire, puis le sentiment d'appartenance. Alors que le site de Folk on the Rock, c'est quand même tout à fait possible. C'est un site qui est grand, qui est bien structuré. Il y a moyen de faire une espèce de parcours, une section jeunesse, une section art et culture, un événement d'envergure pour un concert avec un artiste de renom. C'est que moi, je suis bien content des résultats qui sont sortis aujourd'hui. Je pense que c'est gérable. Il y a de quoi de très bien à faire à Folk on the Rock. Puis, je m'inquiète pas pour la suite des choses. Il reste encore beaucoup de travail. Mais mon but, c'est aussi de mettre en place une fête qui pourrait avoir une certaine pérennité et continuer dans le futur. Puis je pense que plus t'es proche de la ville, plus que c'est facile de recruter du monde, puis de recruter des bénévoles, puis de plus t'as accès à plus de ressources. J'étais ouvert à toutes les options, mais ultimement, je pense qu'on a un vote clair pour Folk on the Rocks, fait qu'on va faire ça là.
Quelle est la suite des choses? Parce que là, c'est pas encore fait. Là, on s'attend pas nécessairement à une fête de la francophonie l'été prochain. On a le mandat clair de la population. Qu'est-ce qui reste à accomplir et à quel moment est-ce qu'on pourrait espérer voir cette francofête?
Bonne question. Malheureusement, je dois vous admettre que en ce moment, ce qu'on fait, c'est une étude préparatoire. Le Patrimoine canadien nous sont revenus avec beaucoup de choses à documenter. Ils veulent le branding, ils veulent un plan de gestion de ressources humaines, ils veulent savoir c'est qui les fournisseurs, ils veulent avoir la programmation, le nom de la fête, le plan de sécurité, le plan de gestion des risques. Ça fait qu'il reste encore beaucoup de choses à documenter. Pour l'instant, là, on parle de probablement d'une étude de 80 pages que je dois livrer d'ici au 31 mars. Et cette étude va être annexée à une prochaine demande de financement pour un projet pilote. Le deadline pour le programme de financement du projet pilote, c'est en novembre. Donc, ça ira pas avant 2022 pour une demande. Tout est possible. Ça se peut qu'il reste des sous puis qu'ils servent vers nous puis qu'ils disent « OK, on sera prêt à vous financer à la dernière minute. » Appel à tous. Si ça vous tente, nous autres, on est partant. Mais présentement, c'est ça la mécanique. Ça fait qu'on pond une demande, on pond une étude préparatoire puis on se donne plus de légitimité puis ensuite on dépose une demande de financement qui va être encore analysée par un comité formé de la communauté qui, j'espère, cette fois, va trouver qu'on a bien fait notre travail puis qu'ils vont avoir confiance en nous puis qu'ils vont nous permettre d'aller de l'avant parce qu'on est une des seules juridictions au Canada qui a pas de fête de la francophonie à elle. Puis, moi, c'est important ce qu'on propose aujourd'hui. C'est un projet de société. On ne sait pas si on fait les choses comme du monde, ça pourrait perdurer pour les 50, 75 prochaines années. Ça fait que c'est bien correct qu'on prenne le temps de consulter la communauté puis de faire nos plans comme il faut. Mais effectivement, on voit pas une mise en œuvre à très, très, très court terme.
Donc, c'est ça qu'on comprend. Il y a quand même des gros efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant dans cette étape de consultation. On ne veut pas simplement organiser un party, une fête, finalement, qui va faire plaisir aux gens pendant une année. On veut, en quelque sorte, un modèle qui va pouvoir être repris pour vos successeurs, M. Joly, les prochaines directions générales. Si on comprend bien, on veut créer une nouvelle tradition à Yellowknife.
Exact. Mon but pour la FCY, pour mon passage à la FCY, ça a jamais été d'être la direction générale par excellence qui a toutes les cordes à son arc puis qui est bon en impro, en théâtre, en musique ou etc. Mon but, c'est de renforcer les fondations de la FCY. Puis c'est complètement inconcevable que ça fonctionne à long terme s'il y a juste un employé. Fait que j'ai un peu un agenda caché dans ce projet-là, où ce que j'espère que ce projet va nous permettre de financer, ne serait-ce que partiellement, le salaire d'un coordonnateur. J'aimerais ça quitter la FCY puis faire en sorte qu'il y ait plus de ressources. Je sais ce que ça pourrait être, la FCY. J'ai une vision pour ça. Je l'ai faite au Nunavut. J'ai vu ce qui s'est passé au Yukon, puis je sais qu'on a le droit, les Franco-Ténois, d'avoir une scène socioculturelle aussi le fun et vivante que dans le reste du Canada. Puis tout est possible, mais en ce moment, c'est pas possible parce qu'on a juste un employé. Fait que c'est sûr que si tu veux mettre une fête de la francophonie ténoise en œuvre, tu veux que ce soit soutenable, puis tu veux que la prochaine direction elle ait aussi un incitatif à la poursuivre. Ça fait que moi, j'aimerais ça que ce soit lié à du financement, puis que la prochaine direction, ce soit excusez-moi l'expression, mais un no-brainer pour elle, que écoute, il faut que tu poursuives ça, parce que si tu ne poursuis pas ça, t'es tout seul à tout gérer. Fait que pour les premières années, c'est un peu ça la stratégie, mais après, est-ce que la communauté peut s'approprier puis s'impliquer, puis tu sais, ultimement, on veut pas non plus que ce soit juste le projet de la FCY et sa responsabilité. Ce serait bien d'impliquer tous les partenaires, la Fédération franco-ténoise, le CDETNO, Collège nordique, Média ténois. On veut que tout le monde mette la main à la pâte. Là, c'est un projet de société qu'on propose aujourd'hui. Les gens qui ont décidé de faire une Saint-Jean-Baptiste, là, je sais plus combien de centaines d'années, ou une fête de l'Acadie, ils ont jamais pensé deux secondes que ça irait aussi loin que ça. Mais soyons réalistes, dans 200 ans, il va y avoir encore des francophones au TNO. Fait que si on a mis en œuvre une fête de la francophonie ténoise, puis que pour une obscure raison, elle arrive à se poursuivre dans le temps, ben ça se peut que ça devienne quelque chose de vraiment génial.
Bref, on prend ça très au sérieux. Maxime Joly, directeur général de l'Association franco-culturelle de Yellowknife, merci beaucoup.
Aminata Konate, qui est fondatrice du service My African Cuisine in Yellowknife, a remporté ce mois-ci le concours de la communauté francophone Florissante, qui vise à récompenser un ou une entrepreneur francophone des TNO. C'est un prix offert par le Conseil de développement économique des TNO et c'était dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Thomas Chabot, qui est au bout du fil, s'est entretenu avec Mme Konate.
Oui, Thomas, et c'est sans grande surprise que Mme Konate s'est dite ravie de remporter ce prix pour son entreprise My African Cuisine in Yellowknife, son entreprise qu'elle a d'ailleurs fondée en 2019. Je vous propose, avant toute chose, d'écouter sa réaction.
OK, ben je suis très, très heureuse. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Donc, vraiment, je suis contente d'avoir remporté ce concours-là. Ça fait plaisir, en fait. Au moins, ben ça montre que ben mon projet est intéressant et que ça plaît aux gens. Donc, ouais, je suis contente et fière.
On sent de la fierté dans la voix de Mme Konate. Oui. Elle remporte donc une vidéo promotionnelle qui sera réalisée par Média Ténois au courant des prochains mois et qui sera diffusée lors d'un événement spécial en mars.
Et Thomas, revenons à l'entreprise My African Cuisine in Yellowknife. Certains la connaissent peut-être du marché fermier de Yellowknife. Elle était également présente à divers événements privés. Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, Thomas, qu'est-ce que c'est? Quel service offre Mme Konate?
Et là, on est rendu au segment qui donne fin à présent. My African Cuisine, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la confection et la préparation de produits et de plats ouest-africains. En fait, je vous propose de laisser Mme Konaté décrire elle-même son éventail de services.
Oui, effectivement, en fait, c'est My African Cuisine est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de plats. On fait des jus et puis des sauces aussi qui sont préparées avec des produits frais et exotiques. Et puis, ben, les gens peuvent nous contacter aussi pour des services traiteurs personnalisés.
C'est effectivement une belle gamme de produits, Thomas, là, qu'on n'est peut-être pas habitué de voir à l'épicerie, là, qui pourrait donner des idées. Et comment est venue l'idée à Mme Konaté de se lancer en affaires?
Eh bien, si l'idée lui est apparue en arrivant à Yellowknife, My African Cuisine in Yellowknife n'est pas la première poussée entrepreneuriale de Mme Konaté. Ses débuts remontent à son temps passé en Saskatchewan, écoutant Aminata Konaté raconter comment lui est venue l'idée de fonder son entreprise.
Ben, en fait, quand je suis arrivée ici, déjà, ben, la cuisine, je le faisais un peu. J'habitais déjà en Saskatchewan. Je participais déjà à des festivals pour vendre un peu la nourriture africaine et surtout mes jus. Quand je suis arrivée, à Yellowknife, je me suis rendu compte que, ce que je voulais offrir n'existait pas. Donc, je me suis dit qu'il y a une opportunité à offrir parce que j'ai vu des restaurants, éthiopiens, somaliens. C'est très différent de ce qu'on propose en Afrique de l'Ouest. Je me suis dit, ça peut être une opportunité à saisir et puis découvrir aux habitants de Yellowknife quelque chose de nouveau, en fait.
On sent réellement son intérêt de faire découvrir de nouvelles saveurs aux habitants de la capitale ténoise. Mais outre ses produits, elle a souhaité partager certains conseils aux futurs entrepreneurs francophones du territoire. Je vous propose d'écouter à nouveau, et cette fois-ci, les conseils de Mme Konaté.
Ben, je dirais déjà, il y a le CDO Ténéo qui offre un appui aux entrepreneurs. Donc, si tu es francophone et que l'anglais est une barrière pour toi, tu peux te rapprocher du CDO Ténéo pour avoir des conseils et puis ils pourront t'orienter en fait vers les services adéquats. Et puis, je dirais à la personne d'être motivé, engagé et puis persévérant dans ce qu'il fait, de ne pas abandonner, de croire à son projet et puis d'essayer surtout et puis de se donner des objectifs fixes et puis d'essayer de les atteindre.
On vient donc d'entendre les conseils d'Aminata Konaté pour se lancer en affaires à Yellowknife. Si vous voulez essayer les produits de My African Cuisine, il est possible de contacter directement Mme Konaté via les réseaux sociaux de son entreprise. Thomas Chabot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'Info. Je suis Thomas Étier, journaliste de l'initiative du journalisme local pour Médias Ténois. Passez une excellente fin de journée.
Territoire d'Info. Une émission de l'initiative du journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.